7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous auscultons la jeunesse en Arabie Saoudite. Non pas qu'elle soit malade, mais 65% des habitants ont moins de 30 ans aujourd'hui. Et les jeunes sont la clé pour comprendre quel chemin va prendre l'Arabie Saoudite, qui est à un tournant de son histoire. Les femmes viennent d'ailleurs tout juste d'être autorisées à conduire, c'est historique, par décret royal, la semaine dernière, dans un pays où il n'y a pas d'auto-école pour les femmes, rappelons-le. Nul doute, un prince, un jeune prince, a pesé dans cette décision, Mohamed bin Salman, fils du roi, qui détient les ministères clés. Il a lancé un vaste plan de réforme, Vision 2030, pour changer le pays en profondeur, sur le plan économique, mais aussi des mentalités. Alors ce plan concerne bien sûr la jeunesse saoudienne. À quoi aspire cette jeunesse, largement éduquée, biberonnée aux nouvelles technologies? Nous allons en parler avec vous, Clarence Rodriguez. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous retrouver à ce micro chez les 7 milliards de voisins. Vous avez passé 12 ans en Arabie Saoudite, comme correspondante notamment pour RFI. Vous étiez la seule journaliste française accréditée par le royaume, et vous publiez Arabie Saoudite 3.0. Vous avez donc interrogé des garçons, des filles de moins de 30 ans sur leur avenir professionnel, sur leur famille, sur le mariage, sur leur religion, la religion, et sur leur identité saoudienne. Et quant à vous, bien sûr, les voisins, vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant sur les réseaux sociaux ou bien en nous appelant au 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission, on évoquera la population mondiale avec le nouveau rapport de l'INED. On est désormais 7 milliards et demi. Il va falloir changer le titre de l'émission. Alors, sommes-nous trop nombreux? D'ailleurs, on pourra dire un mot de la démographie dans le Golfe Persique. Réponse tout à l'heure en fin d'émission avec le démographe Gilles Pison.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Clarence Rodriguez, avant d'écrire sur la jeunesse saoudienne, vous aviez écrit sur les femmes. Et ça y est, l'heure est arrivée. Les femmes sont autorisées à conduire depuis la semaine dernière. Vous avez été surprise ou pas? En tout cas par le timing?
Non, en fait, surprise non, parce que c'est en fait un long combat qui a débuté en 1990, avec ces 47 femmes qui ont été arrêtées parce qu'elles voulaient conduire comme les soldates américaines. On est en pleine période de guerre du Golfe, hein, il faut s'en souvenir. Il y a eu également, en 2011, Manal al-Sharif qui a pris le volant. Elle avait posté une vidéo et elle a purgé une peine de 9 jours. Et puis, il y a eu également la manifestation qui était prohibée, parce qu'il faut savoir que les manifestations en Arabie Saoudite sont interdites. C'était en octobre 2013, où les jeunes femmes, la nouvelle génération voulaient se mettre au volant, etc. Et puis également, on en a également parlé, ces deux femmes, Loujane et Maïssa, qui ont été arrêtées à la frontière entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors elles, en plus, elles étaient détentrices d'un permis de conduire international et elles voulaient, si vous voulez, mettre l'accent sur l'absurdité des autorités saoudiennes. C'est-à-dire que beaucoup de Saoudiennes possèdent le permis de conduire, sauf qu'il leur manquait l'essentiel.
Elles l'ont passé à l'étranger, en
oui,
fait.
Hein. Ou même dans le Golfe, oui. À Bahreïn. Beaucoup de jeunes, oui. D'ailleurs, parce que c'est à 400 km de Riyad.
Donc elles passaient la frontière pour aller prendre leur cours de conduite et pour passer leur permis.
Absolument. Et ensuite, après, pour celles, en tous les cas, qui voyagent, elles partaient donc à l'étranger et elles pouvaient conduire.
Et comment ça va se passer concrètement là, pour les femmes, alors, du coup, en Arabie Saoudite? Il va falloir ouvrir des auto-écoles pour les femmes?
La route est encore un petit peu longue, avant d'arriver en juin 2018. Oui, effectivement, il n'y a pas d'auto-école, donc il va falloir aussi former des hommes, voire même des femmes, instructeurs ou instructrices. Il va falloir également former la police féminine. Et puis, je vais vous dire, il va falloir aussi que les mentalités changent aussi, parce que par décret royal la semaine dernière, donc le roi a effectivement accordé et autorisé les femmes à conduire. Mais n'oublions pas, c'est une minorité de femmes qui souhaitent conduire et qui va conduire. Mais l'autre partie, qui est quand même importante, parce qu'on est quand même dans un pays très conservateur, vous avez des femmes qui ne veulent absolument pas conduire. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on donne le choix à ces femmes de conduire. ou de ne pas conduire.
Alors, il y aura toujours, évidemment, le poids de l'autorisation du père, du mari, en tout cas socialement parlant.
Oui, alors, il y a une chose que... j'ai constaté sur place, vous avez des hommes féministes. Vous voyez, ça peut surprendre. Parce que vous avez des hommes qui souhaitent que les femmes, leurs femmes, conduisent, qu'elles soient également, qu'elles ne soient plus inféodées à un tuteur masculin. Donc, tuteur masculin, mari. Ça peut être le fils lorsque celle-ci est.
Et quand on a les moyens, un chauffeur. Mais sinon, effectivement, oui. Ça demandait du temps et de la disponibilité pour les hommes de la famille.
Oui, c'est pour ça aussi que voilà, c'est une décision importante. Pour les hommes aussi. Hein.
Les jeunes femmes que vous avez interrogées sur leurs droits actuels, que disaient-elles globalement? Parce qu'on a eu ces dernières années un assouplissement partiel des règles pour leur autonomie, sachant qu'il faut bien rappeler que toute femme en Arabie Saoudite dépend de son tuteur, son mari, son père, son frère.
Ou le fils.
Pour ses déplacements, pour travailler, pour tout un tas de choses de la vie quotidienne.
Hein. Absolument. Donc ça c'est... Alors, vous voyez, on parle beaucoup du droit de conduire. Mais c'est pas le premier droit que les femmes saoudiennes souhaitaient obtenir. Elles souhaitent avant tout l'abolition justement du tutorat dont vous parlez. Elles ne veulent plus être inféodées à un membre de la famille, mais elles veulent conduire leur vie et leur destin, être autonomes.
Pour obtenir un passeport, par exemple, pour quitter l'étranger, aujourd'hui, elles peuvent faire une demande et avoir cette autorisation pour l'année, et ne plus être obligées de dépendre du tuteur à chaque déplacement. Mais là, c'est pour les Saoudiennes très aisées qui voyagent. Mais pour le reste, pour la vie quotidienne, quel est encore le poids de ce tuteur?
Il est énorme. Il est énorme, il est omniprésent, aujourd'hui encore. C'est vrai que ça, c'est aussi une avancée. Les femmes peuvent voyager, on ne le dit pas suffisamment. Les femmes peuvent voyager, à condition, bien sûr, qu'elles aient l'autorisation, une bonne fois pour toutes. Et donc, du coup, si vous voulez, elles ont besoin de beaucoup plus d'autonomie, aujourd'hui.
Pour travailler?
Également. Elles ont besoin aussi d'autorisation.
Il faut l'autorisation du tuteur.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, en ce moment, c'est en train de changer. Pourquoi? Parce que les femmes travaillent de plus en plus. Il y a 7-8 ans, les femmes sont caissières, alors que c'était la chasse gardée des hommes. Elles peuvent être vendeuses, elles peuvent être directrices de marketing, elles peuvent être avocates, elles peuvent être femmes d'affaires. Elles occupent l'espace, si vous voulez, de la société de plus en plus. Et ça, c'est pas sous l'ère de Salman, c'était sous l'ère feu Abdallah, qui a fait beaucoup de choses à l'endroit de ces femmes.
Ouais, pour penser évidemment l'Arabie Saoudite de l'après-pétrole. Alors simultanément ou presque, on a eu des annonces du prince Bin Salman concernant la création d'un gigantesque plan pour lancer le tourisme, bien au-delà du tourisme religieux. Les objectifs sont absolument énormes. On parle de plusieurs millions de touristes chaque année, en dehors du tourisme religieux. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Est-ce qu'on est en train de voir naître une vraie société du divertissement, finalement, en Arabie Saoudite?
Alors, ce plan Vision 2030, qui a été lancé, comme vous venez de le dire, par Mohamed Bin Salman, MBS, qui est le prince héritier, et qui, dans pas longtemps, deviendra le souverain saoudien. Pourquoi a-t-il pris cette décision? C'est parce que depuis 2 ans, l'Arabie Saoudite traverse une période, une crise sans précédent, à cause justement de la chute du prix du baril de pétrole. Et donc, il faut que cette société ne soit plus, dépendante de l'or noir. Donc, effectivement, il propose au travers le divertissement, etc. Il va permettre également aux femmes de travailler, d'être beaucoup plus nombreuses. Alors c'est vraiment une révolution sociale.
Permettre aux femmes et aussi mettre les Saoudiens au travail, si on peut le voir comme ça.
Oui, oui, absolument.
C'est pas forcément vécu comme une liberté et un droit.
Non, c'est parce qu'en plus, vous avez raison, dans la plupart des sociétés, je veux dire que les sociétés pour obligation d'engager des Saoudiens. Mais c'est compliqué parce qu'effectivement, ça risque de choquer peut-être, mais les Saoudiens étaient jusqu'à présent sous perfusion étatique. C'est-à-dire, percevaient, si vous voulez, ces gens-là, percevaient des subventions et donc travaillaient peu ou prou. Voilà. Et effectivement, il va falloir même se mettre au boulot.
Les jeunes Saoudiens aujourd'hui, ils ont grandi dans des familles où on travaillait très très peu.
C'est vrai, sauf que depuis quelques années, et depuis 2005, depuis que le roi roi Abdallah a lancé, vous savez, le fameux système des bourses, les jeunes partent étudier et sont de plus en plus nombreux à étudier à l'étranger. Donc ces jeunes, reviennent en Arabie Saoudite avec une nouvelle mentalité, un peu occidentalisée entre guillemets, mais ils veulent jouer un rôle très important au sein même de cette société. Et ce sont ces jeunes qui font bousculer un certain nombre de choses.
Vous n'avez pas rencontré dans votre livre, c'est le reproche qu'on peut vous faire, Clarence Rodriguez, de Saoudiens de conditions, on va dire, modestes, voire de Saoudiens pauvres, est-ce que même ça existe?
Ah bah oui, si, la misère existe, on ne le dit pas assez, mais la misère existe en Arabie Saoudite.
Ceux que vous avez rencontrés, tout va bien pour eux, même parce s'ils se posent des questions importantes.
Non, mais parce qu'ils ne sont pas accessibles, ils ne veulent pas. Moi, je me souviens de l'autre fois, quand on a réalisé le documentaire, je voulais effectivement interviewer des conservatrices ou des conservateurs. Eh bien, ils vous disent non, nous, on ne veut pas parler.
Parce que condition modeste rime avec conservateur ?
Oui, absolument, parce qu'il y a un poids, oui, énormément, énormément. Il y a le poids le poids de la culture, des traditions et de la religion. N'oublions pas, tout ça est étroitement imbriqué. Donc, c'est la raison pour laquelle, et vous avez raison, je n'ai pas pu interviewer un jeune de cette condition, mais les autres parlent pour les
en tout cas, parmi vos portraits de jeunes, je dirais, il y a le côté face avec le prince Mohammed bin Salman, le fameux MBS, et le côté pile avec le blogueur Raif Badawi, emprisonné depuis 5 ans. Autant dire aussi deux visages de la jeunesse saoudienne. Mohamed Abdo, c'est le Paul McCartney d'Arabie Saoudite, vous le dites souvent, Clarence Rodriguez. Il s'est produit en concert en janvier dernier à Jeddah, a priori pour nos auditeurs. Rien à signaler, si ce n'est que c'était devant 7000 personnes et qu'il n'y a pas de concert en Arabie Saoudite à proprement parler, dans l'espace public. Où est-ce qu'on en est ?
Il n'y a pas de musique dans l'espace public, même dans les magasins, vous n'entendez pas de musique. Et effectivement, lorsque Mohamed bin Salman a permis ce concert, l'organisation de ce concert, c'était aussi une petite révolution, c'était historique. Alors, il n'y a qu'une chose, effectivement, qu'on peut reprocher, c'est que, très bien, la jeunesse a besoin de se divertir, sauf que dans ce concert, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes.
Pourquoi ?
Mais parce que
elle n'était pas autorisée ?
Parce que c'est au nom de la non-mixité, encore une fois. Ça fait partie aussi du prochain chantier. On espère que, voilà, de l'abolition, en tous les cas, non-mixité, si les hommes et les femmes peuvent vivre main dans la main dans l'espace. Voilà, ce serait une très, très, très bonne chose.
Alors, en tout cas, vous démarrez votre série de portraits, Clarence Rodriguez, avec deux portraits emblématiques. Celle du souverain MBS, qu'on surnomme aussi Mr. Everything, hein, qui est le prince qui sera probablement le prochain souverain, puisque Mr. Everything, puisqu'il détient les mystères clés, les affaires étrangères, l'économie, le pétrole, hein, pour résumer. Et puis en face, Raif Badawi, également jeune, hein, même génération, 33 ans, incarcéré depuis l'âge de 27 ans, condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, il en a reçu 50. Pour des débats sur son site internet, notamment concernant le poids de la religion et les droits humains. Une même génération, deux jeunes ultra éduqués et pourtant tout les oppose.
Pas tant que ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que j'ai choisi donc ces deux trentenaires. Ils prônent la même chose. Réforme de leur société. Alors il y en a un, c'est l'économie, c'est la société.
Ça, c'est celui qui a le pouvoir. Hein.
Voilà, il a le pouvoir. MBS, Mohamed bin Salman. Et vous avez cet autre jeune, qui est Raif Badawi, qui lui aussi prône pour la liberté la liberté d'expression. Et lui, en revanche, est incarcéré. Alors bien sûr, ça les oppose parce qu'il y en a un qui est en liberté, l'autre qui est incarcéré. Mais,
et en plus avec très peu de contact avec le monde extérieur, hein, dans des conditions difficiles.
Difficile. Alors, je suis en contact avec son épouse Ensaf. Il s'appelle.
Qui est exilée au Canada.
Oui, qui est exilée au Canada avec les trois enfants, à Sherbrooke exactement. Donc elle parvient à la voir au téléphone. Mais je veux dire que c'est si vous voulez... Il n'a commis aucun crime, cet homme. Il n'a commis aucun crime. Alors, j'ose espérer encore une fois, vous savez, sur cette lancée de réforme, pourquoi ne pas libérer Raif Badawi ?
Est-ce qu'il va finir par sortir ?
Bah écoutez, moi, je le souhaite. Je le souhaite
avant d'avoir purgé sa peine ?
Oui, moi, je le souhaite vraiment. Parce que, même si, vous savez, les Saoudiens, les autorités saoudiennes ne veulent pas être influencées par la communauté internationale, il faut que la décision vienne d'elle. Voyez, j'ose espérer que Mohamed bin Salman, qui vient d'autoriser les femmes à conduire, permette à ce jeune trentenaire de sortir de sa prison. Et vraiment. Et je pense que là aussi, ça fait partie des
En dépit des positions du clergé saoudien.
En dépit, oui, bah vous savez, regardez, les femmes conduisent en dépit aussi du clergé saoudien et des mentalités et des, vous voyez, des conservateurs.
Alors, le beau-frère aussi de Raif Badawi est incarcéré, le mari de sa sœur. En 12 ans, finalement, à Riyad, vous le décrivez bien, vous avez vu la couleur des abayas changer pour les jeunes filles, les jeunes en jean et en basket, mais ce qui n'empêche pas plusieurs jeunes contestataires de croupir en prison à l'heure actuelle.
Oui, ben voilà. Il y a Raif Badawi, mais vous avez également le jeune Ali, qui est le neveu de, vous savez, le cher chiite qui a été exécuté en janvier 2016 et qui lui aussi perd, il a 18 ans, il purge aussi une peine de prison pour avoir participé donc à des manifestations. Vous avez effectivement, parce que les manifestations sont proscrites, on n'a pas le droit de manifester. C'est comme ça qu'ils ont pu d'ailleurs contenir le printemps arabe. Vous savez, ça soufflait uniquement, si vous voulez, aux frontières de l'Arabie Saoudite. Et tout ça a été circonscrit. Vous voyez, donc voilà.
Avec aussi, il faut bien le dire, une kyrielle de cadeaux sociaux,
à l'époque,
notamment fonctionnaires, etc.
90 milliards ont été versés par le roi Abdallah, qui était
donc
revenu...
coercition et cadeaux.
Mais voilà, ça rime, c'est vrai.
C'est la recette.
Absolument. Mais c'est plus valable aujourd'hui. Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus les revenus de la manne pétrolière ne suffisent plus, si vous voulez. Donc du coup, c'est terminé tout ça. Vous savez, il n'y a plus les subventions aux fonctionnaires. Il y a eu des coupes franches concernant donc, les salaires des fonctionnaires en Arabie Saoudite. Donc on le disait tout à l'heure en début d'émission, c'est vrai que maintenant, les jeunes Saoudiens ou les Saoudiens ou Saoudiennes doivent travailler aussi, vous voyez, en dehors de l'État, quoi, en fait, dans des sociétés privées.
Sur MBS, sur Mohamed bin Salman, alors là, on a beaucoup parlé de Raif Badawi, mais d'ailleurs, c'est vrai aussi que vous confessez dans votre livre avoir des remords sur le fait de ne pas avoir suffisamment parlé de Raif Badawi, parce qu'il a été très médiatisé, et puis ensuite, il est tombé un peu dans l'oubli par la presse.
Moi, j'étais un peu en colère, je vous cache pas. Moi, j'ai toujours suivi depuis le début le combat de Raif Badawi, que ce soit sur ma page Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il y a eu cette effervescence au moment où ce jeune a pris les coups de fouet le 9 janvier 2015. On en a parlé parce qu'il a quand même il a reçu le prix Sakharov. Et ensuite, ça a été terminé. Et je trouve que c'était pas normal. Et ça, c'est un reproche qu'on peut se faire en tant que journaliste. C'est-à-dire qu'on parle d'un fait, on le monte en épingle et ça retombe. Sauf que là, il s'agit de la vie d'un homme.
Alors, on va essayer de comprendre en deuxième partie d'émission ce qu'attendent les jeunes. Est-ce qu'ils attendent vraiment des avancées sur les droits humains ou bien est-ce qu'ils adhèrent essentiellement au plan Vision 2030 du prince Mohamed bin Salman, qui est plutôt réformons l'économie et puis le reste suivra, on verra plus tard, même si là, il a donné effectivement des gages avec l'autorisation des femmes de conduire. Vous restez avec nous, Clarence Rodriguez. Nous revenons auprès de ces jeunes en Arabie Saoudite, 7 milliards de voisins. Nous revenons dans 3 minutes maintenant. Restez avec nous, les voisins et les voisines. On se retrouve après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, nous parlons de la jeunesse en Arabie Saoudite. 65% des habitants ont moins de 30 ans aujourd'hui. On en parle avec vous, Clarence Rodriguez. Vous avez vécu 12 ans en Arabie Saoudite comme correspondante, notamment pour RFI. Vous publiez Arabie Saoudite 3.0. Je crois que le titre est assez explicite. Parole de la jeunesse saoudienne, cette jeunesse ultra connectée. D'ailleurs, vous dites dans votre livre que c'est statistiquement les gens qui sont le mieux équipés sur les nouvelles technologies dans le monde.
Ah oui, ils sont même d'ailleurs
peut-être
leaders.
Avec les Sud-Coréens.
Ah oui, oui, c'est vrai. Mais les Saoudiens sont champions du monde de Twitter. Vous voyez, c'est des utilisateurs de Twitter. Parce qu'en fait, vous savez, dans une société hermétique, bien
compartimentée,
les réseaux sociaux constituent vraiment une fenêtre sur le monde. Et c'est vrai que ça les aide énormément. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Un de mes personnages, qui est une femme en l'occurrence, les réseaux sociaux lui permettent de faire du commerce. Vous voyez, donc Ragad, pour ne pas la
qui a 27 ans, qui a ouvert une
Absolument.
Boutique, bon, grâce aux prêts financiers de son père. Ouais. Elle démarre son business aussi grâce aux réseaux sociaux.
Absolument. Et donc, elle est vraiment très connectée, cette jeune femme, parce qu'elle elle vend donc ses articles, parce qu'elle a une boutique donc de vêtements, d'accessoires, de mode. C'est une jeune saoudienne qui est bien dans ses baskets en fait et qui est connectée et qui vient à Paris à la fashion. Vous voyez, c'est
et qui est
fashion
toujours
week,
célibataire. Hein.
Qui est toujours célibataire. Mais bon. Alors, il y en a certains qui m'ont fait des confidences, enfin, on va pas quand même tout raconter, ouais. Mais qui m'ont fait des confidences et qui m'ont raconté comment, et c'est ça qui est incroyable, comment ils rencontraient donc des jeunes
Alors,
femmes.
Alors, justement,
voilà.
C'est une question d'un auditeur, Gérard Ketanjamena au Tchad. Il a 4 questions et la première, c'est exactement ça, Clarence. Comment les jeunes saoudiens vivent-ils leur romance en Arabie Saoudite?
Ben, j'ai presque envie de dire comme la plupart des jeunes dans le monde. Ça, souvent, vous voyez, il y a des clichés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le raconte. Bah, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent grâce aux réseaux sociaux, la plupart.
Donc, les photos sur Snapchat, etc.
Snapchat, WhatsApp, voilà. Donc, du coup, ils sont grâce encore une fois à ces connexions. Quand je suis arrivée en 2005, c'était avec des bandes magnétiques, des cassettes, vous savez. Et ils se, voilà, au feu rouge, au carrefour, ils balançaient leur cassette avec des petits mots, avec des poèmes, etc. Il y avait ça. Ou alors,
avec leurs coordonnées dessus.
Absolument. Et dans les centres commerciaux, ils étaient sur des bancs, on le voyait très bien. Alors, ils écrivaient donc le numéro de téléphone, le 06 local, on va dire. Et puis, ils laissaient, quand ils avaient repéré une fille ou autre, ils le laissaient sur le banc et on voyait la jeune fille qui venait récupérer le numéro. C'est anecdotique.
Donc,
mais
cette soif des jeunes de rencontrer l'autre sexe est complètement universel, c'est ça que ça démontre. Hein.
Oui, voilà, mais il ne peut pas non plus, si vous voulez, faire ce qu'ils veulent aussi, vous voyez, se balader main
Alors,
dans la main, dans les rues.
Gérard vous demande, est-ce qu'il est permis de flirter, de s'embrasser en public?
Non. Non, non, c'est un peu dommage, quoi. Pourquoi?
Les voilà. Jeunes peuvent-ils choisir leur futur époux ou le droit revient seulement aux parents? Ça, c'est la troisième question de Gérard.
Alors, c'est vrai que l'influence, notamment des mères, est très, très importante. C'est-à-dire que ce sont les mères qui veulent choisir la future épouse. Et d'ailleurs, vous savez, je le raconte à la fin, justement, c'est Fawzia, cette mère qui veut choisir
l'épouse
de son fils. Parce que, en fait, vous savez, quand vous n'épousez pas une fille ou un garçon, vous épousez une famille en Arabie Saoudite. Donc, il est important que les familles soient à peu près du même rang. Qu'elles s'entendent bien. Alors, j'ai quand même rencontré des couples qui se sont rencontrés sur Internet et qui se sont mariés. C'était leur choix. Mais on est au balbutiement du choix d'un jeune Saoudien ou une jeune
Saoudienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont entre 25 et 30 ans et qui se marient aujourd'hui, vous diriez que quoi, 80% des mariages sont arrangés?
Ah oui, encore, oui, oui, bien sûr, c'est encore le poids. Vous savez, le poids des traditions est quand même très, très important. Des traditions, de la culture, de la religion.
Alors, certains vous racontent les enquêtes parallèles, ouais. Parce qu'évidemment, pour vendre le partenaire, on dit, voilà, à son fils, je t'ai trouvé une fille formidable, ou je t'ai trouvé un mari formidable, et il gagne tant, mais il faut des enquêtes parallèles, parce que la belle famille peut fournir des informations erronées.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est un peu compliqué, parce qu'ils peuvent se tromper. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de divorces. Hein. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que justement, au départ, c'est des mariages arrangés ou alors des fausses informations qui ont été instillées donc, auprès des familles. Ça existe en tous les cas.
Le mariage interreligieux est-il possible? Vous demande également cet internaute. C'est la dernière question qu'il pose.
Oui, ça existe, mais c'est très discret en fait. Vous voyez, c'est pas quand même la majorité de jeunes saoudiens ou saoudiennes qui se marient, qui sont de confessions différentes, puisque vous savez, le culte, le seul culte là-bas, c'est l'islam. Donc, non, ou alors c'est très discret.
C'est quand on lit les portraits de ces jeunes que vous publiez, Clarence Rodriguez, on a l'impression qu'ils sont difficiles à cerner, ces jeunes. Que finalement, tout est conciliable. Il y a un jeune garçon qui vous dit qu'il est très croyant, ce qui ne l'empêche pas de faire des fêtes très arrosées tous les week-ends dans sa garçonnière, parce qu'il quitte sa famille pour être dans un appartement tout seul le week-end, donc avec des filles. Et en même temps, d'admettre que le mariage arrangé, c'est le meilleur des mariages. Alors c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas, nous.
Bah, c'est la dualité. C'est la dualité dans laquelle vivent ces jeunes, vivent les Saoudiens d'une façon générale.
Mais c'est une forme presque de schizophrénie qu'on retrouve chez ces jeunes, en fait.
Bah, écoute, oui, c'est un héritage.
Mais qu'ils revendiquent ou pas un mode de vie très contradictoire pour certains d'entre eux.
Bah, vous voyez, Khaled, hein, puisque c'est le personnage hein, qui mène une vie de patachon quand même. Hein,
tout en travaillant pour l'entreprise de son père.
Oui, absolument. Et qui s'accorde donc, qui s'accorde des moments, des grands écarts, on va dire, le week-end. Et justement, lui, en plus, c'est vrai qu'il mène une vie, donc, comme je vous dis, de patachon. C'est un fêtard. Mais il veut quand même épouser une femme que ses parents donc vont lui proposer, etc. Mais quand je lui pose la question, mais dis-moi, ta femme, tu vas accepter aussi qu'elle sorte et qu'elle aille faire la fête? Ah, il dit, ah non, surtout pas. Alors, il lui dit, ben oui, mais non, ma femme, elle doit rester à la maison, mais moi, je continuerai quand même à faire la fête.
C'est ça, il vous annonce qu'il va perdurer, garder le même mode de vie.
Ah, mais complètement, ça, c'est aussi une réalité. Non, mais je pense que, vous savez, en écrivant ce livre, il fallait quand même, à un moment donné, tordre le cou au cliché. C'est-à-dire que cette jeunesse saoudienne, elle est encore une fois, c'est universel, en fait. Ce sont des jeunes qui ont envie de vivre comme tous les jeunes du monde entier. Sauf que, bon, c'est un peu compliqué.
Enfin, sauf que la contradiction dans laquelle ils sont n'est pas universelle, précisément.
Ah ben
il y a des cultures où les jeunes vivent avec davantage d'harmonie et de cohérence dans leur choix de vie.
Non, mais là, c'est parce que le poids, encore une fois, des traditions, de la religion et de la culture est prégnante. Je veux dire que elle est omniprésente. Je veux dire, ça, c'est une réalité aussi à laquelle, je veux dire, ils doivent se confronter tous les jours.
Dans l'ensemble, ce qu'on retrouve à chacun des témoignages, c'est le poids de la famille, c'est-à-dire aussi bien pour le mariage, mais la famille pèse affectivement, quand ils sont à l'étranger, ils se morfondent, leurs frères et sœurs, leurs parents leur manquent, ils grandissent pour beaucoup dans des familles assez nombreuses, le poids de la famille aussi sur le plan social et sur le plan financier.
Oui, ils sont dépendants. Mais vous savez, quand vous parliez des jeunes qui vont étudier, ils ont besoin de la famille, c'est la raison pour laquelle ces jeunes femmes ou hommes ne restent pas dans le pays où ils étudient. Ils veulent absolument revenir en Arabie Saoudite pour effectivement pour la famille, mais également pour jouer un rôle important dans leur société. Parce que ces jeunes veulent vraiment voir leur société évoluer. Alors ils arrivent avec une mentalité autre que leurs parents ou leurs grands-parents. Et ça, c'est quand même important de le signaler.
En même temps, on ne les sent pas vraiment contestataires ou engagés.
Parce que ce sont des patriotes. Ce sont des jeunes, ils vénèrent le roi, il faut le savoir, et ils vénèrent aujourd'hui Mohamed bin Salman. C'est-à-dire que ce jeune Mohamed bin Salman, qui est finalement proche d'eux, parce qu'il a, 30, il a à peine 30, 32 ans, ils ont beaucoup d'espoir. voyez, donc c'est pour ça qu'ils sont derrière, derrière lui.
D'espoir sur quoi?
Ben sur le changement, parce qu'ils veulent voir vraiment leur société.
Alors quels sont les changements qu'ils attendent réellement, ces 25-30 ans?
Ben écoutez, déjà, effectivement, on a parlé tout à l'heure par rapport au travail, donc ils veulent, même si c'est un peu compliqué, certains, de se mettre au travail, mais
oui,
ils veulent.
Certains réclament la fin du piston généralisé, oui. Mais d'autres en profitent et n'ont connu que ça. Donc
on est encore dans une société qui est divisée, je veux dire que, mais c'est pas qu'en Arabie Saoudite, hein, là encore, là pour le coup, je veux dire, non, là, ils veulent effectivement, ils veulent aussi, oui, fréquenter des jeunes femmes, flirter dans la rue aussi, faire un certain nombre de choses. Ils veulent fréquenter les centres commerciaux. Vous savez, il y a encore cette non-mixité où vous avez des jeunes hommes qui ne peuvent pas entrer lorsque c'est family section, quand c'est réservé aux familles ou aux femmes.
Dans un supermarché, dans un centre commercial.
Oui, absolument. Donc il y a encore ces... Voilà, ce sont des barrières. Mais je pense que, vous voyez, ce sont des barrières qui vont tomber bientôt. Comme le rideau, vous savez, est tombé aussi entre les femmes et les hommes dans certains restaurants de la capitale, de Riyad notamment. Avant, si vous voulez, on était dans des family sections. Et bien là, les femmes peuvent côtoyer des hommes. Donc ça se fait... Vous savez, tout se fait avec du temps là-bas en Arabie Saoudite. Les changements se font... pas à pas. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre le temps parce que, si vous voulez, c'est leur temps, c'est pas le nôtre, celui des Occidentaux, et ils ne veulent surtout pas qu'on leur impose notre rythme. Voyez, encore une fois, j'ai envie de dire, vous voyez, le livre ou autre, c'est pas de donner des leçons, parce que je n'ai pas, en tous les cas, cette prétention-là. Moi, j'ai juste voulu, si vous voulez, mettre un coup de projecteur sur la réalité que vivent ces jeunes Saoudiens ou Saoudiennes. Mais je me garde bien de donner des leçons, et on n'a pas de leçons à donner à cette société, voire même ces jeunes.
C'est ça, vous leur avez donné la parole, ils ont répondu à vos questions, des entretiens d'ailleurs souvent assez intimes, hein, oui, sur leur vie sentimentale. Ils ne sont pas contestataires, ils ne sont pas engagés. Néanmoins, on sent quand même un consensus, en tout cas une irritation croissante des jeunes contre la police religieuse.
Alors, la police religieuse, qui est de moins en moins présente.
Même s'ils sont très pratiquants et très croyants.
Oui, mais vous savez que depuis avril 2016, et ça c'est aussi important de le savoir, la police religieuse a de moins en moins de prérogatives. Elle est de moins en moins puissante, parce que d'abord, c'est aussi un côté...
Mise au pas du prince Bin Salman.
Oui, et c'est un côté aussi très économique, parce que ça coûtait cher d'entretenir la Motawa, puisque Motawa, c'est la police religieuse. Et donc, du coup, la Motawa, elle est de moins en moins présente dans la sphère publique.
Mais qu'est-ce qui continue au quotidien de les irriter dans ces prérogatives de la police religieuse?
Mais parce que vous savez, une mentalité ne se change pas comme ça. Vous savez...
Non, mais dans les faits, dans leur vie quotidienne, par quoi sont-ils enquiquinés,
écoutez, la tenue,
par exemple.
Vous voyez, bon, je parle effectivement de plus en plus, les jeunes peuvent porter des jeans, etc. Mais,
les garçons.
Les garçons, oui, parce que les femmes portent toujours la baïa, et ça, c'est clair. Et c'est pas prêt d'être retiré. Donc, il y a cette façon, si vous voulez, c'est la façon de vivre, d'être. C'est vrai qu'il fait très chaud là-bas. Donc, le port du Bermuda, vous voyez, ça s'imposerait. Mais ils ne peuvent pas porter le... Vous voyez, c'est un petit détail hein, que je donne. Mais vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous balader comme ça. Je veux dire, non, ils ont envie de vivre comme tous les jeunes de la planète, en fait.
Oui, et en même temps, vous les avez interrogés sur la démocratie. Ils sont assez méfiants, clairement, par rapport à une notion qui... Ils vous le racontent un peu comme une notion qui pourrait menacer l'identité saoudienne.
Oui, mais vous savez, ils vous disent, nous, on n'en veut pas de la démocratie. Ils n'en veulent pas. Ils veulent en revanche, il y en a certains, vous savez, les progressistes, qui veulent peut-être une monarchie constitutionnelle. Ça, c'est vrai. Mais ils se disent, mais nous, on n'est pas fait pour la démocratie. Ils ne sauraient pas la gérer. Mais en discutant directement avec les Saoudiens ou les Saoudiennes, mais c'est valable aussi dans certains pays arabes aussi. Vous savez, la démocratie, c'est pas, ils savent pas trop la gérer aussi.
Alors finalement, on se pose la question, où sont les limites dans les aspirations aux réformes des jeunes? Parce que ils ont grandi avec l'État-providence, hein, qui leur a tout fourni. Ils ont vu leur famille peu travaillé. Est-ce que finalement, c'est pas là que se situe leur limite de tolérance aux réformes et aux changements en Arabie Saoudite? Payer l'eau et ses études, oui, peut-être, mais jusqu'à une certaine limite, quoi, en gros.
Ils sont pas formés. Ils sont pas formés.
On payait pas l'eau, hein, jusqu'à maintenant.
Et l'essence, c'était 60 centimes. 60 centimes le plein d'un 4x4, vous voyez. Donc là, ils se retrouvent à payer, effectivement, il y a eu une augmentation du prix de l'eau, de l'électricité, de l'essence, mais ça reste quand même très, très bas. Mais ils ne sont pas habitués. Ils sont, encore une fois, cette société est en ce moment en pleine mutation. C'est pour ça que le titre Arabie Saoudite 3.0, parce que l'Arabie Saoudite est en train de changer de logiciel. Et ils sont en train de tout modifier. Et ce qui est le plus compliqué encore, c'est de bousculer les mentalités de ces conservateurs, y compris du clergé saoudien. Parce que Mohamed bin Salman prend quand même des risques, vous savez. Il prend des risques parce que il le fait à bon escient. Mais il bouscule les oulémas. Il bouscule le clergé saoudien. Et ça ne veut pas dire que... voilà, c'est ça. Moi, j'ai une petite crainte quand même, si vous voulez, en me disant que c'est très bien, il faut que cette société, c'est inéluctable, doit bouger. Mais attention qu'il n'y ait pas le revers de la médaille, que ça revienne comme un boomerang et qu'on revienne dans la régression.
On vous l'avait bien dit, où on en est maintenant. Ouais, dans le fond, est-ce que vous acceptez de parler d'une émancipation de la jeunesse saoudienne par rapport à leurs parents ou pas?
Oui, absolument. C'est une émancipation. C'est un changement. C'est un changement qui est radical parce que, encore une fois, la plupart de ces jeunes sont partis étudier à l'étranger. Ils sont nombreux encore. Vous savez, ils bénéficient quand même d'une bourse de l'équivalent de 3 500 euros par mois, ce qui est quand même énorme. Et ça leur permet quand même de faire des études. Pour ceux qui peuvent, parce que...
Pour quelle proportion de jeunes, d'ailleurs, ces bourses pour aller étudier à l'étranger, ce sont pour les plus méritants
c'est une demande. C'est une demande. C'est également en fonction de résultats obtenus dans les établissements scolaires et universitaires en Arabie. Non, il y a quand même une sélection, si vous voulez, mais tout le monde peut demander à obtenir donc une bourse pour étudier à l'étranger.
Alors, il faut dire rendez-vous à cette jeunesse en 2030 pour faire le point, finalement.
Ah oui, c'est demain, en fait.
Aux manettes. Hein.
Ah, oui, absolument, on refera un autre bouquin là-dessus.
Laurence Rodriguez, vous publiez Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va évoquer la démographie mondiale avec le nouveau rapport de l'INED. On est désormais 7,5 milliards. Alors, est-ce qu'on est trop nombreux? On parlera aussi, d'ailleurs, de la natalité dans le Golfe Persique. Hein. Réponse avec le démographe Gilles Pison, ça sera juste après. Justement, un autre artiste saoudien qui était présent à ce fameux concert, qui était une révolution dans le royaume, Rabé Saker, avec le titre Ramis.
Bye.
Parlions tout à l'heure de la jeunesse saoudienne avec Laurence Rodriguez qui est toujours dans le studio et nous sommes maintenant en ligne avec Gilles Pison, démographe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé au Muséum d'Histoire Naturelle et chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Le rapport sur la population mondiale de l'INED l'a confirmé depuis 2017. On est bien 7,5 milliards de voisins, donc on va bientôt changer le titre de notre émission. À chaque rapport, évidemment, on se pose toujours la même question. Sommes-nous trop nombreux sur Terre, Gilles Pison ?
Alors, on était 1 milliard d'habitants il y a 2 siècles, donc la population a été multipliée par 7,5, et les projections des démographes annoncent qu'on pourrait être 10 milliards en 2050, peut-être 11 milliards à la fin du siècle, mais à ce moment-là, la population mondiale n'augmentant plus guère, voire même pouvant diminuer légèrement. En tout cas, la croissance démographique rapide que connaît l'humanité aurait cessé.
Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas réellement d'inquiétude à nous faire sur trop d'habitants ?
Alors, je ne sais pas si à 7,5 milliards on est trop. Il se trouve qu'il y a 2 siècles, on était 1 milliard d'habitants, mais l'espérance de vie à la naissance n'était que de 25 ans, contre plus de 70 ans aujourd'hui, et que les humains, si on prend les critères habituels pour juger de la qualité de la vie, vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 2 siècles quand ils étaient 1 milliard. Alors je ne dis pas que les choses sont mieux, on est nettement plus nombreux, c'est un défi, mais objectivement, les 7,5 milliards d'aujourd'hui vivent mieux que le milliard d'il y a 2 siècles.
La population africaine est en pleine croissance. Plus d'un voisin sur 3 sera africain en 2100, c'est ça ?
Oui, peut-être plus. Alors, c'est des projections. Mmh. C'est des projections. Tous ces chiffres, l'avenir n'est pas écrit. Mais les projections démographiques sont relativement sûres lorsqu'il s'agit d'annoncer l'effectif de la population à court terme. Et pour un démographe, c'est les 10, 20 ou 30 prochaines années. Et donc, la majorité des humains qui vivront en 2050, ils sont déjà nés. On connaît leur nombre. On peut estimer sans trop d'erreur la part des 7,5 milliards d'aujourd'hui qui ne seront plus en vie en 2050. Et aussi, on peut estimer le nombre de nouveau-nés qui viendront se rajouter d'ici là. Donc, les projections sont relativement solides d'ici 2050, notamment celles qui annoncent un doublement de la population de l'Afrique. Pour ce qui est au-delà de 2050, c'est plus incertain, mais là aussi, il est très probable que la population de l'Afrique va continuer d'augmenter et pourrait donc tripler, quadrupler, voire quintupler par rapport à aujourd'hui.
Malgré une baisse plus lente que prévue, mais réelle, de la fécondation en Afrique hein.
De la fécondité, oui.
Ma langue a fourché.
Les femmes, aujourd'hui, en Afrique, mettent au monde 4 enfants et demi chacune, en moyenne.
Oui.
Et si on compare avec les autres continents, c'est 2,1 enfants en moyenne en Asie, 2 enfants en Amérique latine, 1,9 en Amérique du Nord et 1,6 en Europe. Donc, l'Afrique a une fécondité nettement plus élevée que les autres continents. Cela dit, la fécondité diminue en Afrique, comme elle a diminué il y a 3-4 décennies en Asie et en Amérique latine. La seule différence, c'est que la baisse de la fécondité est moins rapide que ce qu'on a observé il y a 30-40 ans. Voilà.
Et concernant le monde arabe, puisque nous parlions de cette jeunesse saoudienne avec notre invitée Clarence Rodriguez. Clarence Rodriguez, d'ailleurs, une partie des jeunes que vous avez rencontrés ont grandi dans des familles très nombreuses, 6-7 enfants. Il semblerait qu'aujourd'hui, même si on n'a pas de chiffres extrêmement précis, mais que les familles, la taille des familles diminue très, très clairement, Clarence.
Oui, absolument. Il y a de moins en moins d'enfants dans les familles saoudiennes. Il y a aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les hommes épousent, voyez, parce que c'est ça aussi, les frères, demi-frères, etc., épousent une femme voire deux maximum, au lieu de quatre qui est autorisé par la loi islamique. Et donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins donc, de familles nombreuses, parce que tout ça a un coût. Ça coûte cher. Vous savez, la population saoudienne est de 30 millions d'habitants, dont 10 sont des expatriés ou immigrés. Donc, c'est 20 millions. Et effectivement, il y a et je le disais, 65% de la population qui a moins de 30 ans.
C'est un pays extrêmement jeune. Ouais. Gilles Pison, sur le monde arabe, globalement, comment ça évolue ?
Oui, ben, je confirme, c'est que de plus en plus est adoptée la famille de petite taille, donc partout sur la planète, hein, mais notamment dans les pays arabes. Et donc la fécondité a beaucoup baissé depuis 30-40 ans. En Arabie Saoudite, les femmes mettent au monde 2,5 enfants en moyenne chacune. C'était beaucoup plus auparavant, mais on observe ça partout au Maghreb, dans le monde arabe. Hein. Cela dit, il y a une question, est-ce que à terme, dans les pays arabes, les familles et la fécondité va être de 2 enfants par femme en moyenne, voire moins, comme dans les pays européens, où elle est de 1,6 enfants en moyenne. Est-ce que c'est le modèle de la famille de très petite taille, de la très faible fécondité qui va prévaloir, ou est-ce que ça va être différent? Et on se pose des questions parce que dans des pays comme l'Algérie, où la fécondité avait beaucoup baissé ces dernières décennies,
elle
on observe un relèvement de la fécondité.
Merci infiniment Gilles Pison. Alors donc, évidemment, on va suivre tout cela pour le prochain rapport de l'INED. Je rappelle que vous êtes démographe et merci à vous, Clarence Rodriguez. Vous publiez Arabie Saoudite 3.0.